CFM Villefranche, le mag.
Allez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Édition du magazine d'actualité de ce début de semaine. Et bah, c'est le mag Aveyron. Santé, bien-être, fleurette, pâquerette et assiette avec Karine, avec nutritionniste, diététicienne, intervenante en goût. Et tout à l'heure, bah, le retour de Didier Vallet, spécialiste des plantes aromatiques et médicinales et sommité fleurie de la biodynamie. On explore cet univers mystérieux qu'est la biodynamie depuis quelques mois maintenant, et la nutrition et l'équilibre alimentaire avec Karine Justeau depuis des années. Bonjour Karine.
Bonjour David et bonjour à tout le monde.
Comment allez-vous?
Eh bien ça va bien, et vous David?
Ça a l'air plutôt d'aller pas mal.
Bon, écoutez, tant mieux.
C'est quoi, alors de quoi vous allez, parce qu'on ne sait pas. Là,
c'est vrai qu'on n'en a pas parlé.
Un petit peu vite, on ne sait pas de quoi vous allez nous rassasier les oreilles, nous chafouiner les oreilles. On vous écoute.
Eh bien écoutez, un petit cri d'alarme aujourd'hui. Il en faut bien de temps à autre. Oui, c'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui tire cette petite sonnette d'alarme parce qu'effectivement, on constate aujourd'hui en Europe, donc sur toute la zone Europe, mais ça n'épargne pas la France, une épidémie croissante de l'obésité, du surpoids et de l'obésité. Chez les enfants, c'est un enfant sur trois.
Punaise,
comme vous dites.
Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus marqués que d'autres?
Non, c'est assez global. De toute façon, c'est assez global. Et donc, effectivement, c'est inquiétant, parce qu'on le sait, on le dit souvent lors de nos rubriques, et puis vos patients le savent en général.
Les auditeurs,
et mes patients, ou les patients des autres professionnels de santé, l'alimentation, l'obésité, etc. Ça peut engendrer à terme tout un tas d'autres problèmes de santé, des cancers notamment. Et en tous les cas, l'obésité se classe au quatrième rang des facteurs de risque de décès. Donc c'est vraiment pas rien quand même. Vous voyez, alors, c'est pour ça que je voulais aussi profiter de cet article que j'avais lu pour en parler un petit peu, parce que aujourd'hui on se pose plein de questions sur cette pathologie, parce que je rappelle que l'obésité est une maladie chronique, une définition de l'Organisation Mondiale de la Santé, et on se pose plein de questions, et ça a été révélé avec plus de force encore pendant la pandémie du Covid, même si on en entend moins parler aujourd'hui, on le sait, le surpoids a été un facteur de risque. D'ailleurs, je pense que les prises en charge vont évoluer aussi de ce fait-là, ou en tous les cas, les prises en charge financières des patients. Mais on se pose plein de questions, et on se pose même aujourd'hui la question de savoir si l'obésité, finalement, ce ne serait pas ce qu'on appelle une maladie sociétale. C'est-à-dire que il y a plein de choses, plus on avance dans le temps, plus on se rend compte, il y a plein de choses en fait qui vont intervenir et qui vont pouvoir à elles seules déclencher cette obésité. Mais des choses peut-être que vous ne pourriez même pas imaginer, comme par exemple la pollution atmosphérique, les additifs, les pesticides, etc., etc. Il faut savoir, par exemple, que la graisse que nous avons, et qui nous est indispensable, je le rappelle, c'est aussi une barrière de température, par exemple, c'est un vrai système tampon, d'accord? Nous avons besoin de la graisse, mais le problème, c'est que c'est un tissu qui a tendance parfois à trop se développer et donc à envahir les organes. D'accord, d'où après l'obésité. Mais on sait par exemple que si je vous prends les polluants dans une grande ville, pour certains, les polluants, ça va attaquer le système par exemple respiratoire, d'accord, ou autre système. Eh bien, chez certaines personnes, la graisse est un système tampon et les polluants vont attaquer, si vous voulez, je fais simple, la graisse, le système tampon ne va pas bien fonctionner et va se mettre à grossir pour protéger l'individu en question des polluants de la ville. D'accord. Donc ça veut dire que l'obésité, c'est une pathologie avec multiples risques, multiples facteurs de risque, d'accord, qu'il ne faut pas essayer forcément de rendre tout le monde mince, c'est pas ce que je veux dire. Si on réfère à ce que je viens de dire, des fois ça peut être aussi un petit peu protecteur d'avoir un petit peu de surpoids, par exemple. Mais l'idée, c'est de rester dans des choses qui soient plutôt modérée quand même. D'accord. Et c'est là où effectivement j'ai envie aussi de dire, ben des fois il faut pas grand chose pour pouvoir enrayer un surpoids, une obésité. Mais le message le peut-être le plus important à faire passer aux auditeurs aujourd'hui, c'est de dire, ben prenons-le au départ. N'attendons pas d'avoir vraiment une obésité installée depuis longtemps avec beaucoup de kilos à perdre, parce que là ça devient très compliqué, ou ça peut devenir très compliqué. Hein, et je pense notamment aux enfants, là. Parents, si vous regardez les courbes de croissance de vos enfants, arrêtez le phénomène dès que vous vous en apercevez. Hein, parce que là, du coup, c'est un tout petit travail à mener, des fois un tout petit réglage, hein, et puis pof, ça repart dans le bon sens. D'accord ? Faut pas oublier quand même que l'obésité, aujourd'hui, hein, si j'explique un petit peu l'aspect santé, bien sûr, qui est le plus important, mais enfin, ça a un coût quand même. Le tabac représente en France... coûte en France 13 milliards d'euros, d'accord, pour soigner les gens, ok. L'obésité, 13 milliards, d'accord, donc on n'est pas si loin que ça. Et dans les...
Ah bah vous avez dit deux fois 13 milliards, hein, Karine.
Non, j'ai dit 20 pour le tabac.
Ah pardon, et... j'ai compris 13.
Non, 20 d'accord. pour le tabac, 13 okay. pour l'obésité. Ouais. Et on sait très bien qu'au niveau économique, ben, effectivement, il y a plus de chômage chez malheureusement cette population-là. Dans les usines, il peut y avoir des baisses de production, des arrêts de travail. Enfin, vous voyez, c'est pas que la maladie.
Bien sûr.
Et donc aujourd'hui, on sait que ça va pouvoir être enrayé, possiblement en tous les cas, si vraiment il y a un travail de fond et global qui est mené, pas que par les gens dans la santé, hein, mais aussi par les urbanistes, parce qu'effectivement, ils vont pouvoir installer des trottoirs pour que les gens puissent marcher, faire du vélo, par les politiques qui vont peut-être taxer les boissons sucrées, par les associations de consommateurs qui vont limiter les produits ultra transformés. Vous voyez, chacun, en fait... À notre niveau, on peut essayer de travailler cette épigénétique, hein, c'est-à-dire c'est tout notre environnement là qui fait qu'un individu va ou pas développer l'obésité quand là, on en a dans le gène.
Vous parlez d'Europe, hein, mais je crois qu'au Brésil, c'est une vraie catastrophe. Et d'ailleurs, ce qui a poussé peut-être les industriels, alors c'est pas peut-être, c'est très clairement les industriels à mettre un gros sticker, un peu comme on a sur les paquets de cigarettes, nous, en France, sur les boissons pétillantes sucrées, avec des alertes très très fortes. Hein,
des alertes très très fortes, ça va se multiplier. Par exemple, j'ai répondu à une enquête là, il y a quelques jours de ça, sur le Nutri-Score. Vous savez, le Nutri-Score, en fait, il demandait notre avis, savoir si le Nutri-Score entouré d'un trait noir un petit peu épais, en fait, sur l'étiquetage alimentaire, serait assez visible pour les consommateurs. Et ce trait noir voudrait dire, attention, aliment ultra transformé. Donc, ça veut dire beaucoup d'additifs alimentaires. Et moi, j'ai trouvé à le voir que c'était très visuel et ça permettait déjà de savoir, si je prends, je ne sais pas, des gâteaux apéritifs, hein, par exemple, il y a des gâteaux apéritifs industriels, mais qui peuvent ressembler à une fabrication plutôt artisanale, et des gâteaux industriels qui sont avec des méthodes d'extrudation ou autres, des soufflés ou autres, qui sont des vrais produits ultra transformés. Donc, vous voyez, au-delà du Nutri-Score qui ne gère que les nutriments, le fait de pouvoir travailler sur cette notion d'ultra transformé, c'est super intéressant.
Alerte aujourd'hui, alerte, et c'est l'Organisation Mondiale de la Santé qui le dit, donc concernant, une épidémie...
Croissante
d'obésité, en Europe.
Oui, mais enfin, là, l'enquête portait sur l'Europe, mais malheureusement, je pense qu'on pourrait étendre et dire que c'est aussi un phénomène plutôt mondial.
Et ben voilà, merci Karine.
Avec plaisir.
On suit votre actualité sur vos différents canaux de communication, page Facebook ou encore compte Instagram. Karine Vec, Diet News, Karine Justo, Diet News, Karine Nutritionniste, pof, bim, on tombe chez vous. Allez, belle
Bienvenue
journée.
En tous les cas.
La suite du programme dans un instant avec, comme annoncé, Didier Vallet, spécialiste des plantes aromatiques et médicinales.
CFM, CFM Radio, votre radio dans l'Aveyron.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
CFM, CFM Radio, votre radio dans l'Aveyron.
Vous venez de nous rejoindre, suite de cette édition du lundi, santé, bien-être, mieux-être, fleurettes, pâquerettes, des plantes, des hommes et de la biodynamie, tous les 15 jours avec Didier Vallet. Bonjour Didier.
Bonjour David.
Sommité fleuri de la biodynamie, grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, et on explore la biodynamie avec vous Didier. C'est un instant de poésie, une semaine sur deux. Le compost au programme aujourd'hui.
Oui, donc là on arrive fin septembre, on arrive le 29 septembre, c'est à Saint-Michel. Donc pour les biodynamistes, c'est une date très particulière. On en a déjà un peu parlé, on y reviendra sûrement. Et c'est l'époque où on fait des préparations, où on élabore nos préparations. Donc c'est autour de Saint-Michel, là, cette année, on va faire ça le 16 octobre sur une ferme près de Morse, dans le Cantal. Je laisserai mes coordonnées s'il y a des gens intéressés pour me contacter et pour venir, pour voir un petit peu de visu nos façons de faire un peu bizarres par rapport à l'agriculture conventionnelle. Donc, une grande partie, toutes les plantes dont je vous ai déjà parlé, les 6 plantes dont je vous ai parlé, vont servir à élaborer le compost.
On peut les rappeler, ces plantes, hein, pour les auditeurs.
Alors, on peut les rappeler. Je vais les ranger par ordre un peu différent de ce que j'avais fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que ce sont toutes des plantes médicinales et qui agissent à des niveaux chacune différents dans l'organisme, en médecine humaine par exemple. Donc on a la camomille matricaire et le pissenlit qui sont des plantes de la sphère de la digestion. Donc la camomille plutôt intestin, le pissenlit plutôt foie. Plutôt les propriétés hépatiques, mais on est dans la sphère de la digestion. Ensuite, on a dans la sphère des liquides, de la gestion, la sphère urinaire, la vessie, sphère urinaire, les reins, et tout ce qui est de circulation d'eau dans le corps. Il y a l'achillée millefeuille. Ensuite, on a tout le système osseux avec le chêne, dur comme du fer.
Qui n'est pas une plante, puisque c'est l'écorce qu'on utilise.
Donc, l'écorce qu'on utilise. Donc, beaucoup de calcaire, de calcium dans le chêne, et comme dans le squelette, comme dans les ours, qui sont surtout du calcaire. Ensuite, on a la sphère plutôt du sang, tout ce qui est le sang avec l'ortie, qui contient beaucoup de fer, comme l'hémoglobine qui contient du fer. Et la dernière plante qu'on utilise, la valériane, qui est utilisée normalement pour soigner le système nerveux. Donc on a vraiment sphère digestive, circulation des liquides dans l'organisme, le sang qui est, disons, l'ortie avec le sang. On dit dans les traditions que le sang est le porteur du moi. Et c'est là qu'on retrouve l'ADN, voilà. Et sur les prises de sang, on va pouvoir un petit peu savoir où en est la personnalité, où en est le moi, et ainsi de suite. Et puis ensuite, le système nerveux, donc qui régit en fait toute la circulation d'informations. Donc voilà, c'est 6 plantes qu'on va utiliser, et on va les utiliser, on va les mettre dans le compost, pour que déjà gérer toute la fermentation du compost, et puis ensuite que dans le sol, elles apportent ses propriétés. C'est-à-dire que tout ce qui est digestion dans le sol, tout ce qui est circulation de liquide, tout ce qui est circulation d'informations, et tout ce qui est la nature propre du sol, soit harmonisée par ces préparations. Alors, maintenant, si vous voulez, le compost. Venons-en au compost. Alors, la manière de le faire, le compost, c'est pas simplement Il y a une grande différence entre un compost et puis un tas de détritus. Un tas de détritus, on peut le mettre à la déchetterie, mais un compost, c'est autre chose. C'est comme il y a une grande différence entre de la farine et du pain. Mmh. Parce qu'il y a une fermentation qui se passe. Et la fermentation demande qu'il y ait, pour faire du pain, il faut une certaine quantité de farine, une certaine quantité d'eau. Si on met trop d'eau ou trop de farine, on ne va pas réussir à avoir une fermentation. Donc il y a des proportions bien déterminées à faire. Pour la fabrication du fromage, c'est exactement la même chose. Quand on empressure du lait pour le faire cailler, on ne va pas mettre n'importe quelle quantité de pressure. Mmh. Et chaque fromage va avoir une manière de faire différente pour avoir des fromages différents. Donc, quand on est dans la fermentation de produits naturels, si on veut, il y a des règles bien précises à faire. Alors, un tas de compost, donc, c'est un mélange, déjà, de matière fraîche et de matière sèche. Donc, on en avait déjà parlé. La matière fraîche contient surtout de l'azote. La matière sèche contient du carbone. Alors, ça se trouve, par exemple, dans la paille, ça se trouve dans des copeaux de bois. Tout ça, ça va être les mêmes. Disons, la paille, c'est de la cellulose. Les copeaux de bois, c'est de la lignine. Mais c'est les mêmes molécules que la cellulose, mais plus grosses. C'est des molécules de cellulose qui sont en macro, ce qu'on appelle des macromolécules, disons, qui vont se casser après. Il y a tout un tas de matériaux, mais qui ne contiennent que du carbone et de l'hydrogène et de l'oxygène. Il n'y a pas d'azote dedans. Voilà. Et toutes les matières fraîches, alors, que ce soit des excréments animaux, que ce soit du crottin de cheval, de la bouse de vache, des fientes de poule ou de mouton, de chèvre, de lapin, tout ce qu'on veut, ça contient surtout de l'azote. Et puis avec l'urée aussi, les déjections urinaires des animaux. Donc on va avoir l'urée, c'est pareil, c'est surtout de l'azote. Donc on retrouve ça dans tout ce qui est épluchure de légumes. Donc quand vous essayez de faire votre compost avec des épluchures ou de l'herbe fraîche, tous vos déchets ménagers, je pense que David, c'est ce que tu fais, ton compost.
Oui, absolument.
C'est avec ça. Donc, vous allez avoir, si vous mettez que ça, il va vous manquer du carbone. Il va vous manquer de la matière sèche que vous pouvez trouver sous forme, donc, la paille, si vous avez un voisin agriculteur, vous pouvez aller chercher un peu de paille chez lui pour mélanger dans votre composteur
Des feuilles qu'on ramasse, là, il y en a en pagaille, hein, des feuilles, on a l'impression
sèches,
que c'est l'automne avant l'heure.
Des feuilles sèches, oui, des feuilles sèches, pas fraîches, mais sèches. Mmh. Oui, du broyat, si vous avez un petit broyeur, vous pouvez broyer du bois. Autrement, vous pouvez aussi aller acheter au magasin agricole, ils vendent des grands sacs de copeaux de bois qu'on peut utiliser pour les toilettes sèches et qu'on utilise souvent aussi dans les boxes des chevaux. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut trouver, soit acheter, soit récupérer, soit faire soi-même. Et donc mélanger ces résidus avec ça. Et il faut qu'il y en ait suffisamment, parce que par exemple, si dans une étable ou dans une stabulation libre, il n'y a pas assez de paille et qu'il y a beaucoup de bouse de vache, par exemple, eh bien, quand on va sortir tout ça, déjà, ça va sentir mauvais, parce que forcément, il va y avoir des fermentations qui vont être faites avec d'autres bactéries que les bactéries aérobies. Parce qu'il n'y a pas assez d'air. La paille, tout ce qu'on va mettre va faire que, ça va, comme c'est sec, ça ne se tasse pas et l'air peut rentrer. Et donc, ce sont des bactéries aérobies qui interviennent pour dégrader la matière organique. Et si ça manque d'air, ce sont des bactéries anaérobies, c'est-à-dire sans air. An, c'est le préfixe privatif. On dit privatif, disons, il n'y a pas d'air, anaérobie. Et ça, la plupart du temps, ce sont des bactéries qui vont provoquer des fermentations qui sentent mauvais. Donc, par exemple, le lisier. Le lisier, il n'y a pas d'air, sauf si on le brasse, si on fait rentrer de l'air dedans. C'est de l'eau avec des excréments, et ça sent mauvais quand on passe dans les champs et qu'ils sont en train d'épandre le lisier. Et ce n'est pas normal. Donc, voilà. Donc, le compost, il y a des manières de faire. Alors, ensuite, nous... Alors, ça, c'est pour tout le monde. Hein. Vous êtes jardinier, vous faites votre petit compost. Vous avez un composteur donné, disons... oui, c'est pratiquement donné, ça ne coûte pas cher. Donc, vous pouvez aller chercher, si vous êtes des communes, l'intercommunalité villefranchoise, là, Ouest Aveyron... vous pouvez aller chercher un composteur. Autrement, vous pouvez faire ça, bricoler un coin où vous faites votre compost. Mais surtout, voilà, vous ajoutez. Alors, un petit plus que vous pouvez faire, la présence animale, vous pouvez l'apporter en allant ramasser, si vous avez un pré à côté de chez vous, il y a un cheval, vous allez ramasser un peu le crottin, vous le diluez dans de l'eau, et vous arrosez de temps en temps votre compost, votre tas avec ça. Donc ça va apporter un petit peu la présence de l'animal aussi, qui on essaiera d'en parler un jour aussi, ce que l'élevage a apporté à l'agriculture. Parce que voilà.
Donc les indicateurs d'un compost réussi, c'est
alors un compost. Alors oui, le compost, il a trois phases. La première phase, c'est une phase d'échauffement. Normalement, il monte en température. Donc, cet échauffement ne doit pas dépasser 70 degrés à peu près. C'est-à-dire, ça ne doit pas brûler. Il peut y avoir de la paille qui brûle si ça chauffe de trop. Hein. Il y a des gens qui, en mettant de l'herbe en tas, ont mis le feu à une prairie, hein, de temps en temps. Ça peut arriver. Donc, on a une levée en température. Ensuite, ça, c'est dans les 10 premiers jours à peu près. Ensuite, ça va se calmer. Dans le premier mois, on a des petits champignons qui vont pousser. C'est des petits coprins, donc des champignons blanc-gris avec une tige, un pied très, très fin et une coupole très, très allongée. Mais ça se casse, au moins le coup de vent, ça se casse. Hein. C'est pas du cèpe. Hein. Donc, on a ces champignons qui sont là. Ça veut dire que le champignon, il est là. C'est une levure, hein, en fait, le champignon. Il est là pour dégrader. Donc, ça veut dire qu'on a un phénomène de dégradation déjà de la matière organique.
Didier, je vois le temps qui file. On est au premier stade de la décomposition.
Alors,
du compost.
On parle deuxième stade. Ouais. Et le deuxième stade, ça va être l'apparition des vers de terre. Après, on va avoir si vous allez à la pêche, vous pouvez trouver des vers de compost. Il n'y a pas besoin d'en avoir apporté. Ils arrivent là, ils sont là. Et ensuite, les vers vont disparaître. Et quand il n'y a plus de vers, normalement, le compost est mûr et on peut l'utiliser. Alors, les gens, souvent, quand ils mettent du compost, ils disent que c'est pour nourrir les plantes. Mmh. En fait, pas vraiment. C'est plutôt pour nourrir le sol. Et pour nourrir tous les organismes qu'il y a dans le sol. Mmh. Et c'est ces organismes-là qui vont faire pousser les plantes. Ce n'est pas le compost par lui-même. C'est-à-dire qu'on n'en a pas besoin de grosses quantités de compost. Des toutes petites quantités sont suffisantes. C'est-à-dire qu'en agriculture, on peut utiliser 2-3 tonnes à l'hectare. Donc, revenu à un jardin, ça ne fait pas grand-chose. Ça fait quelques kilos pour un jardin.
C'est homéopathique, certains diraient.
Voilà. Donc, nous, en biodynamie, ça, j'ai parlé du compost. En biodynamie, on met les préparations, et on en parlera sûrement une autre fois, parce que là, je vois que le temps passe.
Oui.
Et on reviendra une autre fois. Et puis, la répétition est le meilleur moyen pédagogique, donc on reviendra là-dessus prochainement.
On reparlera du compost, c'est voilà. Promis.
Si vous voulez voir l'élaboration des préparations, donc on va faire le 16 octobre sur une ferme près de Mors, vous pouvez me contacter, je vous donne mon adresse mail. Donc c'est Didier Vallet, tout attaché, donc Didier Vallet, V-A-2-L-E-T, 12, donc 1-2, @gmail.com.
Enfantin.
Donc vous pouvez m'envoyer un petit mail si vous êtes intéressé pour voir l'élaboration des préparations.
Merci beaucoup. À dans deux semaines, Didier.
À dans deux semaines.
CFM, CFM Radio. Votre radio dans l'Aveyron.